Histoire d'archives pour ce 21 juin. Bonjour Laure, Laure Franek, qui représente les archives départementales.
Bonjour Jean-Marc.
Alors aujourd'hui, pour la dernière de cette saison, pour votre émission Histoire d'archives, vous allez revenir un petit peu sur cette dernière guerre.
Tout à fait, parce que c'est quand même le grand sujet de l'année 2018, puisque nous allons commémorer l'armistice de 1918. Et je voulais faire partager avec nos auditeurs cette belle journée qu'on a eue il y a 10 jours, lundi 11 juin, où nous avons reçu à peu près 220 élèves de tout le département. Ils sont d'abord venus aux archives départementales faire un certain nombre d'ateliers autour de la Grande Guerre, en partenariat avec l'Office national des anciens combattants et des victimes de guerre, qui avait un atelier qui présentait l'origine de la création de l'Office, le statut de pupille de la nation. Et nous, aux archives, on leur a présenté des fonds d'archives liés à la Grande Guerre, notre exposition, bien sûr, et on leur a fait découvrir ce que c'était que les archives. Et l'après-midi, une partie de ces élèves et d'autres élèves de leurs établissements ont présenté un spectacle vraiment d'une grande qualité et qui a été choisi par la préfecture pour lancer tout le cycle de commémoration lié au centenaire de la Grande Guerre. Et j'en parle là parce que d'abord, c'était vraiment un spectacle de qualité qui est à la fois historiquement solide et très touchant, très esthétique aussi, et qui était tellement bien qu'il sera proposé ouvert au tout public à la fin des commémorations en novembre 2018. Si j'ai bien compris, ça se passera dans le gymnase du lycée Pierre-Gilles de Gênes. Bon, on attend d'en reparler d'ici là, mais là, le public sera invité parce que c'était vraiment très très bien. Alors, pour rendre hommage à tous ces élèves qui ont participé, je vais juste revenir et puis expliquer un peu aux auditeurs ce dont il s'était agi. Alors, on a d'abord eu les élèves du collège Borély qui ont fait une présentation scénarisée qui contextualisait en fait la Grande Guerre, l'appel sous les drapeaux, la guerre des tranchées, la vie quotidienne au front et à l'arrière. Voilà, donc c'était vraiment une espèce de petite scénette avec du son, de l'image et des enfants qui lisaient des textes historiques qui présentaient ce contexte. Ensuite, on a eu les élèves du collège Camille Raymond de Château-Arnoux-Saint-Auban qui, eux, avaient travaillé pendant plusieurs mois avec les comédiens de la Mobile Compagnie, qu'on connaît bien aux archives puisque nous les faisons intervenir régulièrement dans nos locaux. Et donc les archives avaient proposé que ces comédiens interviennent dans le cadre de cette classe. Et là, ils ont travaillé sur un fonds d'archives privées qui est conservé aux archives départementales. Et donc j'ai déjà parlé ici, le fonds Augustin Richaud. Vous savez, ces 275 lettres entre un poilu et son épouse. Et depuis sa mobilisation en 1915 jusqu'à sa mort au front en 1917. Et puis c'est vrai que c'est un fonds qui est intéressant parce qu'on a la suite. On a son fils qui après a cherché sa tombe et l'a trouvée et a correspondu avec sa maman pour relater ses démarches. Voilà, donc c'est une histoire qui va de 1915 jusque dans les années 30 et qui permet vraiment d'écrire et de donner corps au destin de ces hommes et de ces femmes qui ont beaucoup souffert pendant la guerre. Donc ces élèves ont travaillé avec leurs enseignants et les comédiens de la Mobile Compagnie, ont choisi des lettres dont ils ont lu des extraits. Et c'était vraiment très émouvant. J'ai vu certaines personnes pleurer. Donc c'était vraiment très, très touchant. Ensuite, les élèves du collège Gassendi de Digne-les-Bains ont présenté, alors il y avait une partie musicale, un jeune violoncelliste qui a joué des morceaux de Bach et de Camille Saint-Saëns. Et ensuite, il y avait le club danse qui a présenté une chorégraphie autour de la guerre sur les musiques de Karl Jenkins et Igor Stravinsky. Donc, c'était vraiment très grande qualité. Et pour terminer le spectacle, ce sont les élèves du collège Marcel Massot, de la Motte du Caire et de l'école élémentaire des Sieilles qui ont interprété « Oui, nous referons un monde », qui est une chanson qui avait été interprétée dans les années 70 par Eva Kiliuta. Voilà. Tout le monde connaît cette air sans savoir que c'est cette Allemande qui chantait cette chanson. Ne me demandez pas de la chanter, je suis une mauvaise chanteuse. Voilà. Donc voilà, donc j'en parle parce que c'était vraiment une magnifique journée, très dense. Hein, et c'est vrai que tous les partenaires se sont dit, ça a quand même été un gros investissement pour cette journée. En plus, il y avait quand même une frustration de la part notamment des parents hein, qui n'ont pas pu assister puisque vraiment la salle était entièrement occupée par quelques officiels, mais essentiellement des élèves. Et donc l'idée, c'était de le reproposer au public. Et donc de terminer en fait ce centenaire de la Grande Guerre par ce spectacle avec des enfants, avec et par des enfants.
Il n'y aura pas d'officiels, la place sera laissée nette pour
oh,
le public.
Alors, je pense qu'en novembre, il y aura toujours quelques officiels, c'est un petit peu normal. Hein. C'était vraiment une initiative au départ de la préfecture, et puis les archives se sont greffées dessus parce que c'était le cadre de la Journée internationale des archives et que nous, c'était intéressant de faire une opération un peu d'ampleur pour cette journée. Et puis ensuite l'inspection académique, la délégation militaire départementale et l'Office national des anciens combattants qui a permis de faire venir les enfants, parce que le problème de travailler avec des enfants, c'est que c'est toujours les déplacements. C'est donc l'Office national des anciens combattants a financé les bus pour les enfants de la Motte du Caire, Château Arnoux notamment. Voilà, donc vraiment très très belle journée, et donc j'en reparlerai où Monsieur Labadie en reparlera en novembre, et j'espère que le public et la presse viendra nombreuses pour cette journée.
Vous parliez des pupilles de la nation. Avant la Première Guerre mondiale, par rapport à la guerre de 70, ça n'existait pas ?
Non, alors en fait, c'est la création de pupilles de la nation, c'est vraiment la Première Guerre mondiale. Après, est-ce qu'il y a eu un effet rétroactif ? C'est très intéressant ce que vous me dites. Je n'en sais rien, à dire vrai. Je n'en sais rien, mais non, normalement, c'est vraiment ce conflit mondialisé hein, qui a déclenché une espèce de prise de conscience. D'ailleurs, c'est une spécificité française. Hein, le fait que la nation prenne en charge les orphelins et victimes de guerre, il n'y a que la France qui a fait ça. Les autres pays, tels que la Grande-Bretagne, ont laissé ça à des œuvres de charité en général, hein, des œuvres caritatives. Donc, est-ce que ça a eu un effet rétroactif ? Bon, après, dans mon avis, des orphelins de 1870, en 1914, ils étaient quand même déjà... c'est vrai qu'ils n'étaient pas si vieux que ça. Donc, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je chercherai. À mon avis, ce n'était pas rétroactif. Ça a dû démarrer. Par contre, c'est toujours d'actualité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a toujours des reconnaissances du public de la nation, notamment sur les victimes d'actes terroristes. Hein. On l'oublie trop souvent. C'est pour ça que ça a été élargi à la notion de victime de guerre et qui inclut les actes terroristes dans cette dénomination-là.
Les monuments aux morts, pareil, ça date de Première Guerre mondiale.
Le fait que la France soit recouverte de monuments aux morts, c'est 1914, hein, ben 1918 plutôt. Et même si après, on a rajouté souvent sur les monuments aux morts une plaque pour 1870, on voit ça parfois dans quelques communes, y compris dans notre département. Et puis les mêmes monuments ont malheureusement aussi parfois servi pour la Deuxième Guerre mondiale, les guerres coloniales. Chaque commune a un peu fait comme il l'entendait. Hein.
Mais souhaitons que ça s'arrête là.
Souhaitons que ça s'arrête, oui, tout à fait. Tout à fait, parce que là, la France a quand même... on est bien couvert de cimetières et militaires et de monuments.
La France était engagée depuis en Indochine, en Algérie aussi.
Tout à fait, tout à fait. Donc,
ça, c'est autre chose.
C'est autre chose, non, mais c'est assez, je trouve, symptomatique de voir que l'Office national des anciens combattants est toujours une institution qui fonctionne, qui finance des études de certains orphelins. Enfin, c'est quand même un signe que nous, malheureusement, ne sommes pas un monde qui est complètement sorti des stigmates de la guerre et complètement sorti de la guerre tout court. Donc, le jour où on pourra se passer de l'Office national des anciens combattants sera un grand jour, mais l'heure n'est pas venue, malheureusement. Voilà. Voilà, donc ça, c'était pour revenir sur cette belle journée. C'est vrai que quand on peut associer des enfants et quand en plus, il y a une restitution publique qui est vraiment de qualité. Hein, on était vraiment dans quelque chose d'émouvant et de qualité. On est vraiment très heureux que ça puisse être proposé à un public plus large et notamment, évidemment, aux familles des enfants concernés, mais pas seulement. Voilà. Après... ce que je voulais évoquer avec vos auditeurs, c'est notre actualité, parce que là, nous allons inaugurer très rapidement, à savoir vendredi 6 juillet à 18h, à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains, notre prochaine exposition. Donc vous savez que les archives départementales sont aussi le siège de ce qu'on appelle la conservation des antiquités et des objets d'art du département. Donc, dans ce cadre-là, nous avons une convention avec le clergé et l'État, propriétaire de la cathédrale, pour exposer tous les étés du patrimoine, alors essentiellement religieux, mais pas c'est pas une obligation non plus, mais c'est essentiellement religieux, surtout qu'on est à la cathédrale, donc relatif au département. Et cette année, l'exposition alors, s'intitule « Sur les pas de l'évêque de Digne à la fin du XVIIe siècle ». Et le propos est de suivre l'évêque de Digne qui s'appelait Le Tellier, donc à la fin du XVIIe, on est dans les années 1683, 84, 85, dans ce qu'on appelait les visites pastorales. J'ai eu l'occasion déjà d'en parler pour l'évêque de Senèse. Alors là, ce sont des visites pastorales très différentes, parce qu'autant l'évêque de Senèse, on est pourtant quasiment à la même période, hein, était quelqu'un de très, très pointu dans ses analyses, une expression absolument parfaite, un français extrêmement moderne en plus. Et puis il fouillait vraiment. Le Tellier, lui, il est plus consensuel, je dirais. Voilà, il est plus voilà, il visite beaucoup moins son diocèse que Soanen, hein, l'évêque de Senèse. Il n'est pas très souvent en fait alors on appelle pas de département, mais dans son diocèse. J'allais dire département, c'est un anachronisme, pardon. Donc il est moins percutant, je dirais, dans ses propos. Mais pour nous, ça avait un double intérêt. D'abord, c'est la période où l'édit de Nanterre est évoqué. Donc c'est une période au niveau religieux qui est quand même un point de cristallisation par rapport aux protestants. Et le deuxième intérêt, puisque le but est de montrer du patrimoine religieux départemental, était de faire le point sur qu'est-ce qui restait de ce qu'avait vu Le Tellier dans ses églises. Qu'est-ce qui restait aujourd'hui de tout ce qu'il avait pu voir à l'époque ?
Voilà, vous parlez de l'édit de Nantes, dans la révocation de l'édit de Nantes de Louis XIV par rapport à son petit-fils, donc Henri IV. Mais en Provence, est-ce qu'il y a beaucoup de temples protestants ?
Alors, en fait, on a mention de certaines chapelles qui avaient été profanées, hein, comme ça qu'utilisent les prélats catholiques pour évoquer ces détournements, j'allais dire, de destination d'église catholique. Oui, il y a des temples. Après, vous savez, un temple protestant, par définition, il est très discret. Voilà. On n'est pas du tout dans la monumentalité, tant intérieure qu'extérieure, d'ailleurs, qu'on a dans les églises catholiques. D'ailleurs, là, ce qu'on a appelé pendant très longtemps la contre-réforme, qu'aujourd'hui on parle de réforme catholique, a été de redonner de la splendeur, de la magnificence, justement pour se démarquer franchement des protestants qui, au contraire, sont toujours d'ailleurs d'une grande discrétion. On peut passer à côté d'un temple protestant encore aujourd'hui sans vraiment se rendre compte qu'il s'agit d'un temple protestant. Donc voilà, c'est oui, mais il y avait des protestants, hein, Seine-les-Alpes, on a même mention de familles protestantes à Thoire. Après, c'est sûr qu'il y avait déjà eu un recul, bien avant la révocation de l'édit de Nantes, tout simplement parce que Louis XIV donnait des coups de boutoir plus que violents sur ces populations-là. On connaît tous le terme des dragonnades. Voilà, donc de facto, les familles soit partaient, carrément quittaient le pays, soit allaient dans des coins où on les laissait un peu plus tranquilles. Il y avait de toute façon eu un reflux. Voilà. Donc pour revenir à ces visites pastorales de Le Tellier, une visite pastorale, je rappelle ce que c'est, hein, l'évêque vient quand même avec tout un cérémonial, à dos de mulet, hein, parce que n'oublions pas, on est...
Et non pas en grande pompe.
En grande pompe, voilà. Peut-être aussi, oui, en grande pompe. Et il vient dans la paroisse, donc ça va être quand même un peu impressionnant, parce qu'il vient accompagné de ses conseillers. Et il fait le point, tant sur le temporel de l'église, de la paroisse en question, quels sont les biens, est-ce que tout ça est au clair, que sur le spirituel. Est-ce que les paroissiens font bien leur service, c'est là qu'on voit quand même le contrôle de la société par l'église, hein, qui était quand même assez... assez important à l'époque, et notamment pour ce qui est du contrôle du temporel, c'était aussi le moment de faire le point sur la qualité de l'ameublement de l'église. Et comme on est dans cette période de réforme catholique, est-ce qu'il y a bien un tabernacle ou pas ? Parce que les tabernacles, c'est vraiment... La réforme catholique, c'est le début des tabernacles, vraiment. Avant, il n'y en avait pas, ou pas vraiment. Voilà, par exemple, est-ce qu'il y avait un tabernacle ? Est-ce que le cimetière était bien clôturé ? Il y a des notions de décence aussi. Est-ce que les tableaux sont décents ? Est-ce que les vases sacrés sont bien en matériaux précieux et non pas en... Voilà, donc, parce que vraiment, on est dans l'esprit... de sacralisation et de magnificence du culte. Et alors, vous imaginez, on est quand même dans un diocèse très, très rural. En fait, on se rend compte dans les descriptions, on est dans du mobilier qui est quand même très pauvre. Je veux dire, c'est pas... Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des beaux objets, des beaux tableaux. Et d'ailleurs, on a essayé d'en montrer quelques-uns. Mais je veux dire, on n'est pas dans un diocèse très, très riche. Donc forcément, l'évêque a beaucoup à redire sur « il n'y a pas de nappe, le cimetière n'est pas clôturé, le toit de l'église laisse à désirer, le presbytère ne ressemble à rien ». Enfin bon, en gros, quasiment, on voit tout le temps quasiment les mêmes choses, quoi. Voilà. Et donc, allez-y, oui, pardon.
Non,
mais... Ah oui, pardon. Non, excusez-moi, je croyais que vous vouliez poser une question. Non, mais j'ai juste clore avec ça. Donc voilà, donc après, notre propos a été vraiment de faire un petit jeu de piste. Alors, on est vraiment... on a proposé les églises dans le coin de Barles, la Javille, le Brusquet. Voilà, on n'est pas très loin autour de Digne. Et on a essayé, comme dans la description de sa visite, on a le détail des tableaux qu'il voit, du nombre de vases sacrés, etc. On a essayé de voir qu'est-ce qui restait aujourd'hui. Malheureusement, il manque beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui ont disparu ou alors déplacées. Mais quand même, dans ce que l'évêque a décrit, on retrouve un certain nombre d'objets. Donc, par exemple, on va retrouver le ciboire de la Robine, qui est décrit dans la visite pastorale. Donc, on va montrer la cloche de Tanaron, qui n'est plus à Tanaron maintenant, mais qui est conservée au musée Gassendi, si mes souvenirs sont bons. À l'église de Bâle, ben là, on parle vraiment de l'église, hein, parce que c'est une des églises un petit peu anciennes. Le crucifix de Bâle, qui est un très beau crucifix avec un Christ en ivoire. Un tableau attribué à Patriti, hein, qui est le peintre un peu connu, j'allais dire, du département à Auzé. Un autre ciboire à Auzé. Une Vierge à l'enfant dans la commune du Brusquet. Et une crucifixion, attribuée à Gilibert Pinin à la Javille. Et je crois que là, j'ai tout dit. Non, il manque encore le tabernacle de la Javille, justement, puisqu'on en parlait. Une croix de procession à la Javille. Et on parle aussi de la cloche de la Javille. Et pour finir, à Beaujeu, un tableau anonyme, qui représente Saint-Roch et Saint-Sébastien. Et toujours à Beaujeu, une croix de procession. Voilà, bon, c'est un peu une litanie, là, mais c'était pour vous montrer que c'est à la fois des tableaux, du mobilier ou des objets sacrés.
Il n'y a pas de calice ?
Non, il n'y a pas de calice. Alors, soit parce qu'il n'y en avait pas dans les communes qu'on a... Enfin, c'est pas qu'il n'y en avait pas, il y en avait forcément. Mais ce que je veux dire, c'est qu'après, ceux qui étaient décrits par le tellier, on ne les a pas forcément retrouvés. Hein. Voilà.
Vous êtes venu avec un petit peu de musique,
oui,
en parlant de calice.
En parlant de calice, Amy Winehouse, qui et voilà le morceau qui s'appelle Wake Up Alone, c'est ça ?
C'est ça. Et on se retrouve juste après.
Ouais.
It's okay in the day, I'm staying busy, tied up enough so I don't have to wonder where is he. Got so sick of crying, so just lately, when I catch myself so I don't have to think about thinking.
silent sense of content that everyone gets just disappears soon as the sun sets. This fierce in my dreams, seizing my guts, he floods me with dread. Soaking soul, he swims in my eyes by the bed. Pour myself over him. This ache in my chest, 'cause my day is done now. The dark covers me and I cannot run now. My blood running cold, I stand before him. It's all I can do to assure him. When he comes to me,
bonjour à tous. Donc, juste pour revenir sur ces visites de l'évêque Le Tellier, donc je rappelle à la fin du XVIIe, hein, entre les années 1683 et 1684, donc, l'exposition sera inaugurée à la cathédrale Saint-Jérôme de Digne-les-Bains vendredi 6 juillet. Vous êtes tous invités. Et ensuite, l'exposition sera ouverte au public tous les jours, du lundi au dimanche, de 13h15 à 18h, l'entrée évidemment libre. Alors, comme à chaque fois, donc, le propos est de présenter des objets ou leur reproduction quand ils ne peuvent pas être déplacés. Il y a peu de textes dans nos expositions, mais en revanche, nous proposons ce que l'on appelle un petit journal que l'on diffuse gratuitement, qui est aussi mis en ligne et téléchargeable sur notre site internet, archives04.fr. Vous allez dans l'onglet, il y a un onglet exposition où là on propose en téléchargement l'intégralité des publications que l'on ne vend pas évidemment, et qui accompagne aussi cette exposition. Il y a la transcription des visites pastorales de l'évêque Le Tellier, la transcription intégrale faite par monsieur Labadie, le directeur des archives départementales, et qui est proposée aussi en téléchargement. Voilà, pour ceux qui veulent aller à la source, voir comment ces visites étaient organisées. Parce que donc, bon, là, j'en ai parlé très vite, mais donc, en gros, hein, pour parler avec du vocabulaire moderne, l'évêque vient, il fait un état des lieux, donc aussi bien sur le temporel que sur le spirituel. Et ensuite, il dresse ce qu'il appelle une ordonnance. Donc, en gros, il donne des ordres, hein. C'est ni plus ni moins ça, des ordres et des règlements qu'il impose à la population et ce qu'on appelait les consuls, hein, qui sont les notables. Hein. Et notamment aussi, faut pas oublier que ça, c'est vraiment un fait très important en Provence, les confréries, parce qu'il examine aussi les comptes des confréries, la façon dont ils se comportent. Est-ce que ces confréries sont bien orthodoxes, entre guillemets? Enfin voilà, donc il y a tous ces sujets-là.
Est-ce qu'il est traqué les chants profanes?
Oui, alors, bien sûr. Alors, en fait, c'est... Alors, Le Tellier, moi, je suis pas trop rentrée dans le détail de ces visites pastorales, mais par exemple, l'évêque Soanen a à Senèse. Alors, il ne dit pas quel chant exactement. Mais puis lui, il va plus loin. C'est tous les chants, en gros, qu'il ne veut pas. Hein. Je veux dire, hormis les chants religieux dans l'église, quand les gens font un peu la fête, en dehors de l'église, et surtout à un moment où ils sont censés aller à l'office, ça ne lui plaît pas. Donc, oui, bien sûr. Alors, je ne sais pas, c'est vrai qu'on en avait déjà parlé, hein, quand on lit ces visites pastorales. Dans l'esprit des religieux, on a l'impression que les gens s'amusent tout le temps, quoi. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce qu'ils ont une façon d'en parler. Alors que bon, c'était quand même une vie de labeur, hein. Je veux dire, c'était quand même... Les gens devaient trimer dur pour subsister, pour gagner leur pitance, tout simplement. Donc c'est toujours un peu surprenant de voir qu'un des points d'achoppement, c'est quand même, oui, effectivement, ces fameuses danses et chants... le dimanche, alors que normalement, le dimanche, on ne fait rien, et en tout cas, on ne chante pas, on ne danse pas, quoi. On se consacre à Dieu.
Et voilà, un parallèle par rapport aux sorcières de Salem,
oui.
Par rapport aux gens qui doivent aller au champ, le champ de la terre, hein, pas oui. Le champ pour chanter, qui était comme mis au banc.
Oui.
Quelque part, parce que ce jour-là, il fallait vraiment rien faire. Quoi.
Ah oui, tout à fait. Oui, il oui. Faut rien faire. Et, alors, c'est sûr qu'il ne faut rien faire. Évidemment, il ne faut pas travailler. Mais il ne faut pas non plus danser. Alors, par exemple, l'évêque Soanen, lui, il est très vigilant sur les fameuses fêtes votives. C'est-à-dire que les fêtes votives, il y en a évidemment dans chaque paroisse, les fêtes votives sont... selon lui, le prétexte à des danses. Alors, c'est quand même fou, parce que c'est quand même des fêtes religieuses, malgré tout. Et c'est vrai que les gens, ben oui, faisaient de la musique, dansaient, et ça ne plaît pas.
Il faut être austère de partout.
Il faut être austère. Alors, c'est vrai que Soanen était très austère, le Tellier l'est beaucoup moins. Voilà, ça... Mais bon, après, il faut resituer dans le contexte. Hein. C'est ça qui est intéressant à cette période-là particulièrement, c'est qu'on est dans le cadre d'une reconquête catholique. Hein. Même si, comme vous l'avez dit, la Provence n'est pas la terre la plus protestante qui soit en France. Mais il y a quand même un grand mouvement de reconquête catholique qui est en parallèle total avec un pouvoir absolu royal. Hein, parce que c'est pas pour rien que c'est sous Louis XIV que tout ça a eu lieu. Donc on voit bien, hein, les deux jambes d'un pouvoir avec un grand P. Hein. Il y a le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel. Et Louis XIV a la haute main là-dessus et compte bien sur les évêques pour faire comprendre que c'est lui le chef.
Alors il y avait une traque auprès des malheureux protestants mm-hmm. qui étaient chassés. Les catholiques qui ne voulaient pas forcément suivre le même guide spirituel, ils étaient mis au banc, ils étaient mis de côté. Comment ça se passait également?
Oui, alors là, je vous ai dit, hein, moi, je n'ai pas lu en détail la visite pastorale de Le Tellier, mais alors Soanen, lui, dans ses ordonnances, il cite certains paroissiens, il donne le nom hein, carrément, qui, par exemple, n'ont pas communié à Pâques. En général, c'est le gros point de noir, c'est s'ils n'ont pas fait leur communion. Et donc, ils citent leur nom et le prêtre, en fait, est sommé de rappeler à l'ordre le paroissien, y compris de le rappeler à l'ordre en public, hein, c'est-à-dire au moment des offices, hein, au moment des prêches. Voilà. Donc, voilà, c'est quand même pas... c'est le contrôle de la société par elle-même hein, et par la religion. Après, moi, je me dis toujours, dans ces petits villages de montagne, on était quand même bien loin de tout. Les évêques, ils venaient quand même pas tous les ans. Voilà. Si vous voulez, ça, c'est le problème. Hein, on en a déjà parlé aussi. Faut pas non plus... Les archives, c'est très important, c'est pas moi qui vais dire le contraire, mais c'est très difficile, simplement avec des archives, de savoir finalement la réalité de la vie des gens. On peut en approcher, mais ça n'est jamais que la réalité écrite, et c'est surtout le point de vue de quelqu'un qui détient un pouvoir, et on n'a pas le point de vue des petites gens qui ne savaient pas écrire. On n'a pas de témoignage audio, voilà. Donc, faut toujours un petit peu nuancer, si vous voulez. Après, il est clair qu'il y avait une volonté. Après, est-ce que la volonté était exécutée? Voilà, moi, je pense quand même que, compte tenu en plus de l'éloignement ici des grands centres de décision et du relief, etc., des chemins difficiles, après, il ne faut pas sous-estimer le pouvoir coercitif de la population d'elle-même par elle-même. Enfin, je veux dire, il y avait quand même des consuls, ce qu'on appelait les consuls, hein, l'équivalent du maire, en fait, hein, et de son conseil municipal. Voilà, hein, il y avait sans doute un contrôle de la population. Et pour eux, ça devait être bien pratique, finalement, d'avoir cet outil-là aussi pour contrôler la population. Et là, on n'en est que sur le point spirituel, mais n'oublions pas le problème d'argent. Parce que ces visites pastorales, ça parle beaucoup d'argent aussi. Hein. C'est est-ce que la dîme a bien été payée ? Essayer de comprendre s'il n'y a pas eu des détournements d'argent, parce qu'il y en a beaucoup, manifestement, vu comment les évêques se plaignent. Voilà. Est-ce que la part des pauvres est bien allée aux pauvres ? Visiblement, pas tout le temps. Voilà, donc on parle beaucoup d'argent en réalité. Hein. Là, je parle évidemment de ce qui est spirituel, mais on parle de l'argent en sonnante et trébuchante. On parle de biens aussi, parce que des fois, par exemple, sur un troupeau d'agneaux, il y avait une partie qu'on devait réserver pour l'église. Et voilà. Et on parle aussi de terre. Hein.
Le troupeau d'agneaux pour les paroissiens, et
oui.
Pour l'église.
Bah, l'agneau ici, c'est surtout l'agneau. Je pense que dans d'autres régions,
il y a les moutons aussi.
Voilà, les vaches. Voilà, tout à fait.
Mais l'évêque, quand il se déplaçait, il fallait bien qu'il soit hébergé quelque part.
Tout à fait.
Ça avait un coût, tout ça.
Ah bah ça devait être pris en charge par la paroisse qui l'accueillait. Hein. Bon, de toute façon, je veux dire, les communautés donnaient quand même pas mal d'argent pour l'entretien de l'église et du prêtre. Et voilà, c'est la grande réforme qui a eu lieu en 1905, quand on a décidé que c'était fini, l'État ne subvenait pas aux besoins de n'importe quelle église, même s'il y a eu des petits coups de canif dedans, et qu'il y a encore des coins en France où ce n'est pas le cas. Hein. Regardez, Outre-mer, les prêtres sont toujours payés, en Guyane, hein, les prêtres sont toujours payés par le département. Hein.
Il n'y a pas de séparation de l'église et de l'État,
ça, là-bas. Ben, ça ne s'applique pas, en fait. Il y a une autre. On est toujours sous un régime concordataire, hein, voilà, comme en Alsace-Moselle, en fait. Hein. Ce n'est pas le même concordat, mais tout à fait. Donc voilà, il y a encore des bizarreries, mais il ne faut pas oublier que jusqu'en 1905, les curés, et uniquement évidemment les curés de l'Église catholique, étaient à la charge de la France, enfin de la nation. Voilà, donc ça a été quand même un grand changement. Et là, évidemment, à cette époque, fin 17e, alors après, les évêques, quand même, en général, ils étaient de bonne famille. Hein, et ils venaient aussi avec leur argent, mais c'était aussi lucratif hein, d'être évêque. Hein, faut pas, c'était une charge à la fois honorifique. Et alors c'est sûr qu'ici, les diocèses dont on parle, on appelait ça les diocèses crottés. Hein, c'est le terme qu'on trouve dans certains textes. C'est des petits diocèses qui ne rapportent pas énormément parce qu'on est dans des paroisses, excusez-moi, très, très rurales. Donc, c'est pas la même richesse que dans d'autres diocèses.
C'est les paroissiens qui étaient contents de ne pas voir trop souvent le...
Sans doute.
J'allais dire la maréchaussée, mais bon, mais c'est quelque part.
La maréchaussée quoi. Religieuse. Ben, ouais. On n'en sait rien. Voilà, c'est toujours ce que je vous dis tout à l'heure. Comment tout ça a été perçu réellement par la population ? C'est un grand mystère. Après, nous, on est très contents d'avoir ces visites pastorales parce que, mine de rien, comme ils vont vraiment dans les paroisses, ils rencontrent les gens et ils racontent, ils détaillent vraiment ce qu'ils voient. C'est passionnant parce qu'on a vraiment un état. Soanen, il dit très exactement le nombre de personnes qu'il y a dans chaque paroisse. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà. Mais il manque quand même toujours à entendre la parole de ces fameux paroissiens. On voit toujours ça sous l'œil de l'évêque. Bon, peut-être qu'un jour, on trouvera, j'y crois pas trop, hein, je dis ça, mais un carnet mystérieux rédigé par un paroissien. Non, mais je sais. Pas possible.
Ouais, comme vous disiez, le problème, c'est qu'ils ne savaient pas écrire. Ils n'avaient pas forcément beaucoup d'instructions.
Les premiers, vraiment, textes écrits par des gens qui ne sont pas détenteurs vraiment d'un pouvoir, que ce soit religieux ou politique, c'est au 18e, hein, c'est avec l'avènement de la bourgeoisie, et c'est pas dans les milieux ruraux, c'est dans les grandes villes. Hein. Il y a un texte très célèbre qu'on étudie quand on fait des études d'histoire, écrit par un bourgeois au 18e, et qui est un des textes fondateurs de l'histoire, vu différemment, justement, parce que là, on entend la voix de quelqu'un qui n'est pas quelqu'un, qui tient une position importante au niveau religieux ou politique.
Est-ce que l'invention de l'imprimerie a été un pied de nez pour l'écriture par rapport à l'Église ?
C'est-à-dire ?
Ben, du fait que c'était plus simplement les personnes qui savaient écrire manuellement mm-hmm. qui pouvaient diffuser l'écriture, les écrits, du moins.
Oui, mais enfin, même si c'est imprimé, au départ, il y a toujours un manuscrit, il y a quand même quelqu'un qui a écrit. Oui, c'est pas.
Enfin, ça se diffuse.
Mais
plus.
Par contre, c'est la diffusion. Oui, tout à fait. Oui, ben, on sait que. On en croit toujours que l'époque contemporaine a l'apanage de l'ultra-diffusion des informations. En fait, on sait que les informations circulaient, alors peut-être un peu moins vite, il n'y avait pas l'équivalent de Twitter, on est bien d'accord, mais les informations se diffusaient quand même très vite. Il y avait ces fameux ah bah le nom m'échappe complètement là, les crieurs de rue, les libelles, les petits journaux, les placards, enfin tout ça diffusé. Alors des fois c'était un peu déformé, mais comme Internet, hein, Internet déforme aussi les informations, on retrouve exactement les mêmes travers.
Mais même chez certains médias, c'est déformé aussi.
Tout à fait, non, j'en ai bien conscience. Donc voilà, donc c'est. Oui, l'imprimerie, c'est sûr, a permis une diffusion, mais bon, vous savez, hein, on sait qu'il y avait des best-sellers hein, dans l'imprimerie, hein, des très très tôt. Hein, des best-sellers, évidemment, ça se compte pas en millions, mais des réimpressions très fréquentes. Donc il y a eu une véritable diffusion, aussi bien des écrits d'ailleurs que d'iconographie. Hein. Ça, dans l'exposition, un des auteurs de des notices l'explique très bien. C'est comment certains modèles iconographiques voyagent en fait. Hein. C'est-à-dire que les peintres travaillent avec des reproductions, des lithogravures qui les inspirent. Et donc vous retrouvez quasiment les mêmes compositions, les mêmes personnages, les mêmes modèles, de tableau en tableau. Et donc il y a vraiment une diffusion, pas seulement des idées, mais aussi des formes qui se voient très très bien. Et très tôt, hein, dès là, on est au 17e. Hein. Mais bien avant, à la Renaissance, on a exactement la même chose.
Hein. Est-ce qu'il y a des saints qui reviennent plus que d'autres?
Souvent, les saints sont en rapport avec la titulature de l'Église. Hein, quel est le vocable de l'Église? Moi, je trouve que, pour ce que je connais pour l'instant du département, il y a une grande variété quand même des saints en Provence. Hein. C'est pas autant il y a des coins, il y a beaucoup de Saint-Benoît. Moi, je viens du centre de la France, donc Saint-Benoît est quand même très très représenté. Non, là, rien que là, il y a Saint-Roch, Saint-Pancras. Saint-Pancras, c'est pas un saint très 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 connu. Saint-Antoine. Je trouve qu'il y a quand même une grande variété.
Tout voilà. Ça sent le sud de la France quand même.
Tout à fait. Ben écoutez, en tout cas, j'espère que le public viendra nombreux à cette jolie exposition. Et puis le catalogue aussi est très, très beau. Voilà. Pour terminer, juste parler de notre actualité en termes d'expo. Alors, j'ai oublié d'en parler, mais j'aurais dû le faire pour quand j'ai évoqué le 11 juin et tous ces élèves qui sont venus aux archives et au Centre culturel René Char présenter un spectacle. Aux archives départementales, nous conservons tout l'été deux expositions qui ont été mises en place à l'occasion de cette journée. La première, c'est les travaux réalisés par ce qu'on appelle les petits artistes de la mémoire. Vous savez, c'est un concours qui a lieu tous les ans et qui fait travailler des classes sur une création artistique, quelle qu'elle soit. Ça peut être un film, un dessin, vraiment, c'est toutes sortes de médiums. Et leur faire parler qu'est-ce que représente pour eux la Grande Guerre. Et il y a des travaux vraiment à couper le souffle. Donc les travaux sont exposés aux archives tout l'été. Il y a des films, des livres. Enfin, j'invite vraiment tous les gens à venir jeter un œil à ça. C'est assez bluffant de voir comment les enfants sont créatifs.
Et on ne se rend pas forcément compte, mais les enfants sont quand même très investis dans ce qui s'est passé. On peut dire, oui, c'est vieux, machin, mais quand on leur fait prendre conscience de ce qui s'est passé, quelquefois, beaucoup ouvrent les yeux.
Bien sûr.
Et heureusement qu'ils ouvrent et qu'ils pourront les ouvrir encore un petit peu plus dans le futur.
Tout à fait. Bah, c'était tout l'intérêt, notamment, de les faire travailler sur une correspondance. Parce qu'une correspondance, en plus, Augustin Richaud a des mots très simples. Hein. C'est un agriculteur du Moustéret. Il est, c'est pas quelqu'un de très éduqué. Donc, il s'exprime de manière très simple. Et de lire ces lettres, ça les touche réellement. Hein. En plus, on leur a montré, ils ont pu toucher les lettres. Certains ne voulaient pas croire que ces lettres avaient 100 ans. Enfin, pour eux, c'est inimaginable. Et donc, ils étaient très réceptifs à l'écoute de ces mots.
Oui, c'est très imaginable parce que pour eux, c'est
des textos.
Ce sont des textos qui s'envolent, quoi, mm-hmm. quelque part. Alors que là, il y a une trace.
Il y a une trace écrite.
Quelqu'un de qui est décédé qui écrit ça. Quoi.
Tout à fait.
Là, le texto, c'est quelqu'un qui est en vie, donc il ne se rend pas forcément compte. Là, c'est quelqu'un qui a laissé des plumes quelque part.
Tout à fait. Donc ça, c'est pour eux, c'est vraiment très, très explicite et très évocateur. Donc voilà, donc vraiment, j'invite chacun à venir voir ces travaux. Et nous avons aussi une deuxième petite exposition, faite cette fois par les élèves du collège Marcel Massot de la Motte du Caire, qui ont fait une exposition consacrée aux aviateurs de la Grande Guerre. Donc ils ont fait un panneau par aviateur, et là aussi, cette exposition est visible tout l'été aux archives. Voilà, et juste la veille de l'inauguration de l'exposition à la cathédrale, M. Labadie, le directeur des archives départementales, fera aux archives départementales une conférence jeudi 5 juillet à 18h sur le dernier chef de la Gestapo à Digne, juin-août 1944. Nous avons ce fameux chef de la Gestapo en photo, elle est utilisée pour l'affiche et l'affiche fait peur. Voilà. Donc le sujet risque d'intéresser. Donc ça, c'est jeudi 5 juillet à 18h.
Aux archives.
Aux archives départementales. Et après, donc, il y aura l'expo à la cathédrale. Et après, puisque pour revenir sur la Seconde Guerre mondiale, vous savez, il y a à Oraison, tous les juillets, il y a toujours une commémoration liée à l'arrestation du comité départemental de la libération le 16 juillet 1944. Et donc à Oraison, tous les ans, il y a une commémoration à laquelle participe M. Labadie, et il interviendra sur cet épisode historique douloureux pour la commune. Voilà.
Laure Franek, on se retrouve en septembre.
Très bien.
L'été va être de repos pour pas mal de gens, notamment vous. On se retrouve le troisième jeudi, ça sera le 20 septembre.
Très bien.
À bientôt.
Merci, à bientôt à tous.